Alors, j'aimerais que vous puissiez tourner dans l'Évangile de Marc, au chapitre 16. Marc 16, et ce matin, on va voir, regarder les versets 1 à 8. Le titre du message ce matin, c'est « La résurrection de notre grand roi ». Et comme Serge, notre frère, a dit tantôt, c'est la plus grande fête chrétienne. Et ce n'est pas les cocos qu'on veut célébrer, malgré qu'ils sont bons, mais surtout le fait que notre Sauveur Jésus n'est pas resté sur la croix. Et c'est pour ça que la croix ici, elle est dénudée du corps de Christ parce que son corps n'est plus là. Donc, je vais commencer par une petite histoire. Un chrétien rencontre un de ses amis qui est un athée, puis il lui pose la question suivante. Quand on en est arrivé au christianisme, quelle est la ligne de fond ou quel en est le bottom line? Et son ami athée répond, c'est très facile. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Si la résurrection de Jésus-Christ est vraie, il en est de même pour plusieurs autres choses, soit Dieu existe, Jésus est Dieu, la Bible est vrai, le paradis et l'enfer sont réels et Jésus a fait toute la différence si tu vas à un endroit ou à un autre. Peu importe où on est, Jésus fait cette différence. Et savez-vous, cet homme-là, cet athée-là, avait raison. Et ce matin, la résurrection de Jésus est historiquement une certitude et éternellement, elle est significative. Il a vaincu le pouvoir de la mort et il a garanti la résurrection future de son peuple. Vous savez, ça serait formidable si tous les étudiants en théologie puis tous les théologiens aurait une conclusion aussi claire et précise que celle-ci sur le christianisme. Christ est ressuscité. Le christianisme repose ou s'effondre sur la résurrection corporelle, historique, d'entre les morts de notre Sauveur Jésus. Pas de résurrection, pas de christianisme. En 1 Corinthiens 15, verset 17, Paul dit ceci, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Et le texte de ce matin, Marc 16, verset 1 à 8, l'auteur Marc note plusieurs évidences de la résurrection de Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons voir ces évidences-là en faveur de la résurrection corporelle de Jésus, tout en examinant les différentes théories établies, et on va conclure avec l'évidence certaine qui nous amène à proclamer « Il est ressuscité, oui, vraiment ressuscité ». Les témoins de la résurrection sont certains, solides comme le roc. Prions Dieu. Père, il n'y a rien d'autre à ajouter que de te louer, Seigneur, parce que tu es vivant. Tu es vivant, tu n'es pas resté dans la tombe. Et nous avons, nous, ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui sont nés de nouveau, cette espérance vivante-là qu'un jour, nous aussi, peu importe si on est mort ou si on assiste à l'enlèvement, qu'on va se retrouver avec toi pour l'éternité. Quelle joie! Quelle espérance vivante! Que ton nom soit glorifié, Père. En Jésus, on te prie. Amen. Les évidences de la résurrection corporelle de Jésus. Personne n'a été témoin, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne dans le tombeau lorsque Jésus est ressuscité. Personne a vu le corps de Jésus revenir à la vie. On l'a vu vivant après, mais on ne l'a pas vu quand ça s'est passé. Et la proclamation de la résurrection de Jésus est basée sur le fait qu'il est mort, il a été enseveli, et la tombe dans laquelle il a été déposé est vide. Et aussi que les disciples ont vécu des expériences qui les ont convaincus que Jésus avait supernaturellement et corporellement ressuscité des morts. Et ayant établi ces faits qui sont historiques, on peut établir sur une base solide le fait que Jésus est corporellement ressuscité en présentant, et c'est ce que je vais faire ce matin, 14 évidences que voici. Inquiétez-vous pas, on va sortir d'ici pareil à l'heure. Premièrement, il n'y a aucune théorie naturelle ou alternative qui ne peut expliquer l'événement, la résurrection, c'est-à-dire. Aucun argument ne tient pour expliquer la résurrection de Jésus. Ils ont tous été abandonnés. Tous ceux qui voulaient dire ou argumenter négativement la résurrection de Christ, eh bien, tous ces arguments-là ont été abandonnés. Les partisans, par contre, de la résurrection ont été sélectifs dans les données bibliques qu'ils ont affirmées. La Bible nous raconte la vérité de la résurrection de Jésus. Ces faits-là ont été relatés par des témoins qui ont vu Jésus. Deuxièmement, la naissance de la foi des disciples et des changements radicaux dans leur vie. Quelque chose est survenu pour que les gens qui suivaient Jésus croient à la résurrection de notre Seigneur. Ces rencontres avec Jésus firent d'eux des témoins forts de la résurrection. Et en plus, selon la tradition de l'Église, les 11 apôtres, avec l'exception de Jean probablement, sont tous morts martyrs. Martyrs parce qu'ils proclamaient que Christ est ressuscité. Et c'est rare qu'habituellement, on ne meure pas. On ne veut pas mourir pour avoir raconté un mensonge. Troisièmement, le tombeau est vide. Il y a seulement des linges. Le témoignage de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, et c'est un excellent exercice de lire ce passage, supporte la vérité d'un tombeau vide par un récit simple, un récit court et non pas seulement un développement légendaire. Ce n'est pas une légende, c'est un fait véridique. Le tombeau est vide. Quatrièmement, ce furent des femmes qui ont vu le tombeau vide en premier. Je vous fais plaisir, hein, les dames, ce matin? Dans la culture juive du premier siècle, les femmes n'étaient pas qualifiées pour être témoins dans une procuration ou dans une procédure, c'est-à-dire légale. Et c'est remarquable que la Bible rapporte que des femmes ont vu le Christ ressuscité en premier. Si l'Église primitive ne faisait qu'inventer une histoire afin de persuader des gens à croire à la résurrection de Jésus, eh bien, ils sont trompés parce que c'est inconcevable qu'elles disent que des femmes étaient des témoins de cet événement-là. La seule raison est que ce sont vraiment des femmes qui ont vu le Christ ressuscité en premier. Cinquièmement, le changement en ce qui concerne la journée d'adoration, on passe du sabbat au dimanche. Vous savez, l'identité juive est reliée à l'observance du sabbat, une journée qui honore et sanctifie notre Dieu. Et quelque chose d'extraordinaire est arrivé autour des années 30, après Christ, qui a amené un groupe nombreux de Juifs à Jérusalem à changer de journée d'adoration, soit de passer du sabbat au dimanche. Cet événement-là, frères et sœurs, chers amis, c'est la résurrection du Seigneur Jésus. Sixièmement, la nature peu probable d'une hallucination massive. Vous savez, une hallucination de masse est impossible. Que ce soit tout ce monde-là qui ont vu Jésus, qui ont halluciné, ça se peut pas. L'hallucination, c'est une expérience profonde et subjective de l'esprit. Et elle arrive de manière personnelle et individuelle et non pas en expérience de groupe. Septièmement, apparition après la résurrection. Le Nouveau Testament rapporte à plusieurs occasions l'apparition de Jésus après sa résurrection. Il est apparu à ceux qui le suivaient. Les disciples, eux, réclamaient qu'il est apparu à diverses occasions, à diverses personnes. La nature différente, mais à la fois complémentaire des apparitions de Jésus après sa mort, après sa résurrection, c'est-à-dire, supporte leur authenticité. Les apparitions durèrent pendant 40 jours, et après, elles ont cessé abruptement. Tout d'un coup, c'est arrêté. Huitièmement, les 50 journées d'intervalle entre la résurrection et la proclamation publique de l'Évangile le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Vous savez, les disciples de Jésus n'ont proclamé l'Évangile de Christ ressuscité seulement qu'après 50 jours après la résurrection à la Pentecôte. Après que le Saint-Esprit eut descendu sur eux, ils eurent la force et le courage de témoigner. Sans le Saint-Esprit, frères et sœurs, on ne peut pas rien faire. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus l'a promis. Avant de partir, avant d'aller vers le Père, il a dit, « Je vais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. » Et c'est lui qui est dans nos cœurs. Et on reçoit l'Esprit-Saint à notre nouvelle naissance. Jésus devait quitter ses disciples, les gens qu'il suivait, avant qu'ils puissent agir, avant qu'ils puissent témoigner par eux-mêmes. Jésus devait partir. Et l'Esprit-Saint devait venir afin de leur donner justement force et courage dans le but de témoigner l'Évangile. Et laissez-moi vous dire que c'est toute une force et c'est tout un courage parce qu'encore aujourd'hui, en 2019, l'Évangile est proclamé. Haut et fort. Neuvièmement, c'est l'incapacité des Juifs, des Romains, à discréditer le message du tombeau vide. C'est un fait indéniable de l'histoire que ceux qui s'opposaient à Jésus n'ont pas été en mesure de désapprouver sa résurrection. Les disciples ne purent pas prêcher la résurrection de Jésus si le tombeau n'était pas vide. Et le groupe aurait pu être écrasé en tentant de reproduire le corps de Jésus, le groupe de gens qui ne croyaient pas. Et personne ne pouvait faire cela parce qu'il n'y avait pas de corps dans le tombeau. aucun corps à reproduire. Dixièmement, la nature inattendue de la résurrection du corps de Christ. Les disciples n'anticipaient pas que Jésus allait ressusciter des morts, malgré le fait qu'il avait prédit ce miracle à plusieurs occasions. Et si cette semaine, vous voulez aller voir, allez dans Marc 8, versets 31 à 33, Marc 9, versets 31 à 32, Marc 10, versets 32 à 34. Au fait, Marc 9, 32 nous dit que les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Ils n'ont pas compris lorsque Jésus a été crucifié. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que leur espoir s'est effondré. Et là, on voit, on lit qu'ils étaient dans la crainte. Pourquoi? Celui qui était avec eux, qui a fait du bien, qui a fait des miracles, était là sur la croix. Ils n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire. Mais après, ils ont compris. Onzièmement, la conversion de deux sceptiques, Jacques, le demi-frère de Jésus, et l'apôtre Paul. Vous savez, Jacques, le demi-frère de Jésus, était un non-croyant avant la crucifixion. Si vous allez dans Jean 7, verset 5, on peut lire comme quoi que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. On l'a même traité de fou. Et là, quelque chose vient de transformer Jacques. De non-croyant qu'il était, maintenant, il devient un croyant. Il croit en son demi-frère Jésus. Et plus tard, il devient un des leaders de l'Église de Jérusalem. Il est mort martyr à cause de l'Évangile. C'était vraiment un croyant. Paul, c'est un persécuteur de l'Église, a eu le cœur changé lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Paul est devenu ce grand missionnaire-là qu'on connaît à travers les Écritures pour la cause de Christ. C'était un évangéliste hors pair qui a fondé plusieurs églises. Paul aussi est mort martyr pour la cause de Christ. Il faut payer le prix des fois. Des fois, pour nous, c'est peut-être pas le fait d'être martyrisé, mais le fait d'être ridiculisé à cause de notre foi. Douzièmement, le caractère moral des témoins qui ont vu Jésus ressuscité. Le Nouveau Testament pourvoit à l'enseignement le plus profond. Il est l'enseignement le plus profond de toute la littérature sur l'amour, la vérité, l'honnêteté, l'espérance, la foi, l'amitié, la douceur et plusieurs autres vertus. Et tous ces enseignements-là nous proviennent de Matthieu, de Jean, de Paul, de Jacques, de Pierre. Tous des témoins de la résurrection de Jésus. Si nous acceptons ces enseignements, on doit croire en leur témoignage, c'est-à-dire au témoignage de Paul, de Jean, de Jacques, de Pierre, de Matthieu. On doit croire en leur témoignage à propos de Jésus. Et c'est eux qui nous racontent dans les Saintes Écritures que Christ est ressuscité parce qu'eux, ils l'ont vu. Treizièmement, le caractère accepté et les revendications de Jésus. À plusieurs occasions, Jésus a parlé de sa crucifixion et de sa résurrection. Jésus a réclamé être Dieu et il a dit qu'il reviendrait à la vie. Détruisez ce temple et en trois jours, je le rebâtirai. C'est ce que les principaux sacrificateurs, les autorités juives, et même les disciples n'ont peut-être pas compris. Mais c'est ce qu'ils voulaient dire. Proclamer que Jésus était une grande figure religieuse et un grand enseignant avec une bonne morale, tout en croyant que ses prédications et sa résurrection sont fausses, font de lui un menteur, un lunatique. Non, la résurrection est essentielle à la confession que notre Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Finalement, des documents de l'événement de témoins oculaires fiables. Le Nouveau Testament est le plus authentique document de l'Antiquité. Plus de 5000 manuscrits grecs du Nouveau Testament existent. On a quelques copies de l'existence que César a existé. On a plus de 5000 manuscrits grecs, copies du Nouveau Testament. Aucune autre religion n'a aucun écrit sacré que les chrétiens possèdent dans le Nouveau Testament. Frères et sœurs, chers amis, ces 14 arguments objectifs forment les évidences, c'est-à-dire historiques et vérifiables de la résurrection de Jésus. Combiné avec l'expérience personnelle d'un croyant, expérience qu'on a vécue en Jésus comme étant Seigneur vivant et Sauveur de nos vies, elles fournissent d'amples raisons de croire que Jésus est ressuscité des morts par la main puissante de notre grand Dieu. Oui, Seigneur, merci. Merci pour l'amour que tu nous as démontré en Jésus, par ta puissance qui l'a ressuscité des morts. Merci parce qu'aujourd'hui, on peut se rappeler la résurrection. La résurrection. Donne-nous la force et le courage, comme tu as fait à tes disciples, de proclamer ce grand message de l'Évangile. Christ est mort pour des pécheurs comme nous. Parce que la Bible dit, nous étions tous des pécheurs, condamnés à l'enfer éternel. Mais qu'en regardant cette croix-là, en croyant que Christ est mort pour nos péchés, nous ayons la foi et la vie éternelle en lui. En Jésus, on te prie. Amen.